juste avant de retrouver Michel et Corinne, ambiance.
La Terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle lui.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Allez, on est toujours en direct. C'est notre journal de ce mercredi 31 janvier. Voilà un petit générique pour nous mettre dans l'ambiance. Michel, bonjour, bienvenue chez vous.
Bonjour Joël. J'en profite, hein, après les vœux anticipés de fin décembre, je re-souhaite in extremis le dernier jour de janvier une bonne et heureuse année 2024 à tous nos auditeurs et à l'équipe d'O2 Radio. Et à tous les astronomes amateurs ou curieux du ciel, de bon ciel cette année pour pouvoir observer autant que possible, même si l'année ne sera pas riche en événements astronomiques pour nous, comme je l'avais dit la dernière fois.
Voilà, je voulais souhaiter la bienvenue à Corinne d'abord, mais merci Michel de cette première intervention. Corinne, bienvenue chez vous aussi maintenant.
Bonjour Joël, merci de cet accueil, toujours voilà. Aussi agréable.
Donc on va vous laisser mais reprendre un petit peu d'autres
points. Prendre une pastille.
Je sais ce que je veux dire en antenne. Voilà, donc Corinne présente AG33. Alors on va écouter bien sûr Michel avec sa chronique Astro numéro 107, et après on va échanger, vous pourrez nous présenter ce que vous avez prévu voilà pour cette au pluriel nuit des étoiles d'hiver. En Michel, tout de suite, pour votre chronique astro, vous allez commencer par l'actu et beaucoup de mauvaises nouvelles de la Lune.
Oui, alors bien entendu, ce n'est pas notre satellite naturel qui a eu des soucis en ce début d'année, mais les missions spatiales dont la destination était ou sera la Lune. La série a commencé avec la mission surprise américaine Peregrine, lancée le 8 janvier de Cap Canaveral en Floride. Lors de la dernière chronique de fin décembre, j'avais pas annoncé ce tir, car je ne l'avais pas vu passer dans les actualités. La NASA n'avait pas beaucoup communiqué autour de cet atterrisseur, car il s'agissait d'une mission privée, développée par la société Astrobotic Technology, initialement dans le cadre du Google Lunar X Prize, un concours lancé par Google en 2007 et arrêté en 2018, sans qu'aucun participant n'ait réussi à poser un engin sur la Lune, ce qui était le challenge proposé. Astrobotic Technology avait néanmoins persévéré dans son projet et Peregrine, en français ça veut dire pèlerin, avait été sélectionné par la NASA dans le cadre de son programme lunaire Artemis dans la catégorie des Commercial Lunar Payload Services, c'est-à-dire des services commerciaux privés de transport vers la Lune, des sondes privées susceptibles de transporter certains instruments de ces missions exploratoires jusqu'à la surface lunaire au tarif quand même de 1 200 000 dollars le kilo. Ainsi, Peregrine, prévu pour se poser dans une des rares régions volcaniques connues de la Lune, les monts Gruithuisen, visibles dans un petit télescope comme des collines arrondies à l'ouest de la mer des pluies, transportait environ 100 kg d'instruments destinés à mieux connaître la composition de ces dômes et effectuer différentes mesures pour préparer une autre mission, baptisée Lunar Vise, prévue en 2026 dans la même région. De son côté, Astrobotic Technology utilisait ce transport pour emporter jusqu'à la Lune, moyennant des billets assez chers, hein, bien sûr, des cendres humaines, notamment celles du célèbre auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, Arthur C. Clarke, ou de l'ADN, notamment des créateurs de Star Trek. Cela avait d'ailleurs suscité des protestations des Indiens Navajo, considérant cet envoi comme une profanation d'un lieu sacré, la Lune, dans plusieurs cultures amérindiennes. Mais il n'y a eu finalement aucune profanation, car Peregrine n'a jamais atteint la Lune. Apparemment endommagée dès son lancement, comme le montraient les images transmises par ses caméras, perdant du carburant et ne pouvant pas orienter correctement ses panneaux solaires, l'engin a été sacrifié en le déviant sur une trajectoire qui l'a fait se consumer dans l'atmosphère pour éviter qu'il ne poursuive sa trajectoire vers l'orbite lunaire en risquant d'y créer un nuage de débris dangereux pour les futures missions. Il s'est donc désintégré au-dessus du Pacifique 10 jours après son lancement.
Et ce n'est pas le seul raté des sondes lunaires en ce mois de janvier.
Alors effectivement, et cela concerne la sonde japonaise SLIM, lancée le 7 septembre. Et lors de la dernière chronique, j'avais dit que la JAXA, l'agence spatiale japonaise, avait réussi à la placer en orbite lunaire le 25 décembre. Je rappelle que ce long délai après le lancement est dû à la trajectoire choisie qui, au lieu de viser directement la Lune, ce qui nécessite une grande dépense d'énergie, procède par une orbite elliptique autour de la Terre qu'on élargit progressivement jusqu'à atteindre la Lune. Il était prévu qu'elle devait entamer sa descente vers le sol lunaire autour du 20 janvier et se poser près du petit cratère Scioli de 270 mètres de diamètre à l'intérieur du très grand cratère Cyril de presque 100 km, facilement visible depuis la Terre dans un petit instrument. Pour y étudier les roches, les comparer avec les roches terrestres et fournir des informations sur l'origine de la Lune. Et il a bien aluni en douceur le 19 janvier à 16h20, ce qui était une grande réussite puisque le Japon devenait ainsi la cinquième nation à poser un engin sur la Lune, après les Soviétiques et les USA en 1966, la Chine en 2013 et l'Inde en août dernier. SLIM s'est même posé avec une précision record puisqu'à seulement 55 mètres du point visé. Mais la JAXA a très vite compris qu'il y avait un problème, car les données fournies par le petit atterrisseur de 730 kg indiquaient que sa position était anormale, peut-être même à l'envers, et surtout que ses panneaux solaires, qui recouvrent tout son dos, si je peux dire, ne fournissaient aucune énergie, ce qui menaçait de la faire tomber en panne au bout de quelques heures, quand ses batteries seraient déchargées. La sonde a donc été mise en veille pour préserver sa charge autant que possible, pendant que les techniciens essayaient de comprendre la situation, un peu à l'aveugle, jusqu'à ce qu'une image soit envoyée par un mini-rover largué quelques secondes avant de toucher le sol lunaire. Baptisé LEV-2, il est très original car c'est une petite boule, à peu près de la taille d'une balle de tennis, capable de se déplacer et de prendre des images. Il a été conçu avec la société japonaise Takara Tomy, un fabricant de jouets. Sur cette photo, qu'on trouve facilement sur Internet, par exemple sur le site de Ciel Espace, on voit que SLIM est dans une position tout à fait anormale, comme basculé sur le côté, sans doute suite à une défaillance à la fin de la procédure de descente, ou peut-être un dernier bond imprévu, ce qui mettait ses panneaux solaires à l'ombre, car orientés vers l'ouest, à l'opposé du soleil. C'était un grand soulagement pour la JAXA, car il suffisait d'attendre que le soleil se déplace dans le ciel pour espérer recueillir enfin suffisamment d'énergie afin de remettre SLIM en service. Sauf que sur la Lune, les choses sont très différentes de la Terre, où le soleil parcourt son trajet diurne en une douzaine d'heures en moyenne. La Lune ayant une rotation synchrone, c'est-à-dire de la même durée que sa révolution autour de la Terre, ce qui fait qu'elle nous montre toujours la même face, c'est en 13 jours que le Soleil y parcourt le ciel d'un horizon à l'autre. Il a donc fallu patienter une dizaine de jours, jusqu'à dimanche dernier, pour que le Soleil darde ses rayons sur les panneaux solaires et alimente la sonde, dont les opérations ont pu redémarrer dès lundi.
Alors, y a-t-il d'autres mauvaises nouvelles des missions lunaires, Michel ?
Alors, lors de la dernière chronique, j'avais indiqué les inquiétudes concernant le planning du programme lunaire habité de la NASA, notamment Artemis 3, qui doit marquer le retour de l'homme sur la Lune, en raison des difficultés rencontrées par SpaceX avec son vaisseau Starship, qui doit jouer un rôle crucial lors de cette mission, comme je l'avais expliqué plus en détail fin novembre. Eh bien, c'est maintenant officiel depuis une conférence de presse de la NASA le 9 janvier, et ça touche même Artemis 2, la mission de mise en orbite lunaire d'une capsule habitée, qu'on espérait pour la fin de cette année, et qui n'est maintenant prévue qu'en septembre 2025. Et pour Artemis 3, en raison des difficultés et des tests restant à passer pour le Starship, et les retards sur les scaphandres lunaires, elle a été repoussée au mieux à septembre 2026, ce qui signifiera peut-être 2027 au final. Si on s'attendait à un décalage de genre pour Artemis 3, comme je l'avais expliqué, c'est plus surprenant pour Artemis 2, puisqu'il s'agit d'une simple répétition de la mission Artemis 1, réussie à vide en novembre-décembre 2022, mais cette fois avec un équipage. Les explications de la NASA fournissent quelques informations qui n'avaient pas été révélées jusque-là. Il semble que le comportement du nouveau bouclier thermique de la capsule Orion n'ait pas été satisfaisant lors de sa rentrée atmosphérique. Il aurait perdu plus de matière que prévu. Des tests sont donc prévus jusqu'au printemps 2025 pour élucider ce problème. Je rappelle à nos auditeurs que ce dispositif est crucial pour la sécurité des astronautes lors de leur retour sur Terre. C'est à cause d'un problème avec sa protection thermique que la navette Columbia a été détruite lors de sa rentrée atmosphérique le 1er février 2003, provoquant la mort des 7 membres de son équipage. Par ailleurs, des défaillances ont été détectées dans les circuits électriques au niveau des batteries de la capsule Orion lors des tests de vibration, ce qui a nécessité de remplacer des pièces difficiles d'accès et de refaire ces tests, ce qui prend beaucoup de temps. Tous ces retards reposent la question de voir des Chinois fouler le sol lunaire avant les Américains. Mais les administrateurs de la NASA, qui répondaient aux journalistes, ne croient pas à cette éventualité, même si les deux plannings se resserrent de plus en plus, la Chine ayant annoncé une mission lunaire habitée au plus tard pour 2030. Pour terminer avec les difficultés du Starship, SpaceX a annoncé en janvier avoir trouvé la cause de l'explosion du vaisseau lors de l'essai du 18 novembre. Ce serait simplement dû au fait qu'il transportait trop de carburant, nécessitant d'en vidanger une partie, et l'expulsion d'oxygène liquide serait l'origine de l'explosion, qui n'aurait pas eu lieu avec un vaisseau réellement chargé pour une mission, selon la société. Je trouve cette explication un peu douteuse, car je suppose qu'avant un lancement, il est possible de déterminer de quelle quantité de carburant on a besoin et de ne pas remplir excessivement les réservoirs. Toujours est-il que le troisième prototype du Starship est déjà assemblé depuis mi-décembre sur son pas de tir de Boca Chica au Texas, et le 21 décembre, un test statique de ses moteurs a réussi. SpaceX semble donc se préparer à un tir en février, mais doit attendre l'autorisation de la FAA, l'administration américaine en charge de la sécurité de l'espace aérien. Pour 2024, SpaceX a prévu de réaliser 150 tirs de fusée, tous lanceurs confondus, ce qui fait presque une moyenne de 3 par semaine, une cadence très soutenue qui montre à quel point cette société a industrialisé le domaine spatial comme aucune organisation auparavant.
Et Michel, avez-vous d'autres nouvelles concernant les missions spatiales ?
Alors, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que la NASA a enfin réussi à ouvrir le conteneur renfermant les échantillons de roches provenant de l'astéroïde Bennu, prélevé en octobre 2020 par la sonde Osiris-Rex et rapporté sur Terre en septembre dernier. À part quelques éléments piégés sur le couvercle, mais donc pas aussi bien préservés des contaminations terrestres que ceux protégés dans la capsule, les roches rapportées étaient inaccessibles à cause de deux vis qui refusaient de tourner. Cela peut sembler dérisoire à tout bon bricoleur armé de ses outils et de dégrippants, mais pour une mission spatiale, tout est bien plus compliqué, car l'accès aux échantillons ne doit se faire que dans un espace strictement stérile à l'atmosphère contrôlée, dans lequel il est très difficile de faire entrer de nouveaux outils sans des procédures très strictes, nécessitant des semaines de délai. Mais on a enfin pu ouvrir la capsule le 10 janvier dernier, et la NASA va pouvoir répartir les gravillons et le sable récoltés à différents laboratoires dans le monde pour analyse, dont en France le laboratoire Lagrange de l'Université de la Côte d'Azur. Avec 70 grammes sur le couvercle et environ 200 grammes dans la capsule, cette mission de retour d'échantillons est donc un succès, car la NASA en espérait au moins 60 grammes. La mauvaise nouvelle concerne un petit engin bien sympathique, le drone hélicoptère Ingenuity déposé à la surface de Mars par le rover Perseverance en 2021. Le 25 janvier, la NASA a annoncé qu'il ne volerait plus dans la très ténue atmosphère martienne. Après un atterrissage d'urgence, il lui avait été programmé un vol de test le 18 janvier pour vérifier sa position, mais il s'est mal terminé. Car après avoir atteint l'altitude de 12 mètres comme prévu et entamé sa redescente, le rover a perdu le contact radio avec lui un mètre avant qu'il n'atteigne la surface. On ne sait pas encore tout ce qui s'est passé, mais les images prises par sa propre caméra embarquée montrent, avec l'ombre projetée au sol, qu'au moins une de ses pales est endommagée. Il est donc impossible de le refaire voler. Même si cette nouvelle est un peu triste et prive Perseverance d'un formidable moyen de reconnaissance des zones qu'il doit arpenter, Ingenuity reste une remarquable réussite, car cet ultime vol était le 72e dans les presque 3 ans d'activité qui ont suivi son vol inaugural du 19 avril 2021, alors que la NASA espérait en réussir seulement 6 pour ce petit démonstrateur de la possibilité de voler dans une atmosphère aussi peu dense que celle de Mars. Au total, il aura parcouru dans les 17 km en l'air en un peu plus de 2 heures en totalisant tous ses vols, avec au passage quelques records, l'altitude de 24 mètres, atteinte lors du 61e vol en octobre dernier, et la vitesse de pointe de 36 km/h, atteinte plusieurs fois entre octobre et décembre. La démonstration est tellement réussie que pour la mission de retour des échantillons récoltés par Perseverance, MSR, Mars Sample Return, ce sont des hélicoptères drones qui seront chargés de récupérer les tubes contenant du sol martien au lieu du petit rover prévu initialement.
Alors après ces nombreuses actualités astronautiques, avez-vous quelques découvertes en astronomie à nous présenter, réalisées ces dernières semaines ?
Alors en 2019, nous pouvions découvrir pour la première fois l'image d'un trou noir, une sphère sombre contrastant avec l'anneau lumineux de gaz chaud qui l'entoure, réalisé 2 ans auparavant par un réseau de radiotélescopes baptisé EHT, Event Horizon Telescope, soit en français Télescope de l'horizon des événements, répartis sur tout le globe, ce qui, en combinant avec précision leurs enregistrements, permet de simuler un immense radiotélescope virtuellement aussi grand que la Terre. L'horizon des événements auquel fait référence ce nom est pour un trou noir la frontière au-delà de laquelle on ne peut rien percevoir, car aucune information, pas même la lumière, ne peut en sortir à cause du champ de gravité extrêmement intense de cette masse incroyablement concentrée. À titre d'illustration, un trou noir pourrait correspondre à toute la masse du Soleil réduite à une sphère de seulement 3 km de diamètre. S'il avait fallu 2 ans pour exploiter les données et aboutir à cette image historique, il aura fallu encore plus longtemps, presque 6 ans, pour travailler celle récoltée en avril 2018, afin d'en obtenir une seconde, dévoilée lors de la conférence annuelle de l'American Astronomical Society début janvier. Représentant toujours le même trou noir supermassif d'environ 6,5 milliards de masse solaire au centre de la galaxie M87, elle confirme la première, mais surtout montre une rotation de l'anneau lumineux autour du trou noir, tel que c'est prévu par les théories. D'autres images du même trou noir doivent être produites les prochaines années, avec des données déjà récoltées en 2021 et 2022, et une autre session prévue cette année. Par ailleurs, le même dispositif est utilisé aussi pour produire des images du trou noir central de notre propre galaxie, dont la première a été publiée en mai 2022. Ensuite, une découverte très étonnante, car elle était faite par hasard. En effet, c'est suite à une erreur de pointage du radiotélescope de 100 mètres de Green Banks aux États-Unis que des mesures ont été faites dans une région de l'espace imprévue et elles ont révélé un objet inconnu, une galaxie qui ne contient que du gaz et pas d'étoiles. En effet, si au début de l'univers, les galaxies se sont probablement formées comme d'immenses nuages de gaz, au sein desquels des points plus denses ont fini par produire des étoiles, toutes les galaxies que nous connaissons présentent aujourd'hui un mélange d'étoiles, de gaz et de poussière. Mais la région visée par erreur ne présente que du gaz. Selon les premières analyses, il pourrait donc s'agir d'une espèce de vestige des galaxies primordiales, une sorte de fossile des débuts de l'univers, dont on n'espérait pas qu'il puisse exister encore des exemples à notre époque, et aussi proche de nous, enfin si je peux dire, car il est situé quand même à 270 millions d'années-lumière. Une curiosité qui ne manquera pas de susciter de nombreuses études à venir. Enfin, une découverte concernant une galaxie bien plus petite et proche de nous, le petit nuage de Magellan. Situé à une distance d'environ 200 000 années-lumière de nous, c'est avec le grand nuage de Magellan l'une des deux petites galaxies satellites de la Voie lactée. Alors que les grandes galaxies comme la nôtre comptent des centaines de milliards d'étoiles, celle-ci n'en compte que quelques milliards, le grand étant environ 3 fois plus gros que le petit. Malgré tout, cette petite galaxie pourrait posséder une structure plus complexe qu'il ne semblait. Déjà dans les années 1960, les observations de Hugh Johnson à l'observatoire Stewart en Arizona semblaient indiquer qu'il pourrait y avoir 2 structures distinctes. En 1986, Donald Matthewson de l'observatoire de Mount Stromlo en Australie avait détecté 2 groupes d'étoiles distinctes séparées d'environ 19 000 années-lumière en étudiant des étoiles variables de type céphéide. Mais cette possibilité n'a jamais été tranchée jusqu'à ce que l'équipe de Claire Murray du Space Telescope Science Institute de Baltimore se penche à nouveau sur la question l'an dernier en utilisant diverses observations dont la vitesse des déplacements, l'absorption de la lumière des étoiles par le gaz qu'elle doit traverser pour nous parvenir et enfin l'âge des populations d'étoiles qui peut se déterminer en examinant leur composition. Au final, en confrontant leurs observations à des modélisations en 3D des structures possibles du petit nuage de Magellan, ils arrivent à la conclusion que s'il se présente comme un seul ensemble d'étoiles vues depuis la Terre, c'est un effet de perspective qui superpose en fait 2 composantes situées à des distances différentes et séparées d'environ 16 000 années-lumière. Il leur reste à déterminer maintenant s'il s'agit bien de 2 petites galaxies distinctes que leurs mouvements autour de la Voie lactée ont rapprochées, ou à l'inverse, d'une seule galaxie qui aurait été disloquée par des passages trop près de notre grosse Voie lactée.
Allez, on est toujours en direct sur de radio, la radio de Haute-Garonne, avec Michel Favret pour sa chronique Astro numéro 107. Et là, Michel, vous allez nous parler de la deuxième partie de la chronique avec le ciel du mois.
Voilà, puisque nous avons une invitée pour parler des nuits des étoiles d'hiver, Corinne, je traite exceptionnellement cette rubrique avant et non à la fin de la chronique comme nous en avons l'habitude. Comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section « Astronomie » de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel, difficile de montrer à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour février, ce soir ou demain. Même si les jours ont très nettement rallongé depuis le solstice d'hiver du 22 décembre, nous sommes toujours dans une période favorable pour les observateurs du ciel nocturne, avec un soleil qui se couche en ce moment vers 18h et la nuit qui arrive un peu après 19h. Fin février sera pratiquement trois quarts d'heure plus tard, avec le coucher à 18h45 et la nuit un peu avant 20h. Pour le week-end des nuits des étoiles d'hiver, la nuit arrivera vers 19h30. En cette fin janvier, nous sommes en hiver depuis environ un mois, et en début de nuit, le ciel est encore partagé en deux entre les constellations de l'automne à l'ouest et celles de l'hiver côté est. Pour le ciel d'automne, c'est surtout la constellation vedette Pégase, le cheval ailé, reconnaissable à un grand carré régulier presque vide d'étoiles, prolongé par la double ligne d'étoiles d'Andromède, dans laquelle on peut facilement repérer, si le ciel est bien noir, la grande galaxie, l'objet du ciel le plus lointain visible à l'œil nu, car situé à environ 2,5 millions d'années-lumière. Dans une simple paire de jumelles, on la voit déjà comme une petite ellipse, mais la vision est bien plus belle dans un télescope qui la révèle beaucoup mieux et permet de percevoir ces deux petites galaxies satellites, un peu comme les nuages de Magellan dont j'ai parlé à proximité de notre Voie lactée. Rien que cette vision vaut déjà la peine d'aller profiter des télescopes proposés par les clubs d'astronomie qui participent aux nuits des étoiles d'hiver, et on verra que ce n'est pas la seule. Côté ciel d'hiver, vers l'est, c'est la constellation vedette d'Orion, le chasseur, qui s'impose à l'œil avec ses trois étoiles bien alignées formant sa ceinture, qu'on surnomme parfois les rois mages, car ils apparaissent dans le ciel en début de nuit vers Noël. Puis avec les deux étoiles brillantes qui forment les épaules de cette silhouette humaine et les deux autres ses pieds, on a une figure qui peut évoquer un papillon. Tout autour, les étoiles les plus brillantes forment ce qu'on appelle le grand jet de l'hiver, permettant de situer toutes les constellations principales de la saison. En commençant devant Orion par Aldébaran du taureau, puis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Capella du cocher, Castor et Pollux des gémeaux, Procyon du petit chien et Sirius du grand chien, l'étoile la plus brillante du ciel, et pour finir par Rigel, le pied gauche d'Orion, et la barre du G formée par ses épaules Bellatrix et Bételgeuse. C'est entre les deux jambes d'Orion, dans le fourreau de son épée, que l'on trouve très facilement l'un des plus beaux objets observés dans le ciel d'hiver, la grande nébuleuse d'Orion, l'une des plus grandes et lumineuses du ciel boréal. Avec les images fournies par les plus grands télescopes, notamment Hubble, on sait aujourd'hui que c'est une pépinière d'étoiles, car on y observe des globules caractéristiques au sein desquels des étoiles sont en train de se former. D'ailleurs, le ciel d'hiver est parfait pour raconter la vie des étoiles, de leur naissance à leur mort, ce que ne manqueront probablement pas de faire les astronomes qui vous accueilleront pour les nuits des étoiles d'hiver. En passant de cette grande nébuleuse à l'amas des Pléiades, déjà bien visibles à l'œil nu, qui sont des bébés étoiles âgées de quelques millions d'années seulement. Puis les vieilles grand-mères, Bételgeuse et Aldébaran, qui sont des géantes rouges à la coloration bien perceptible à l'œil, vouées à exploser prochainement, alors à l'échelle astronomique, ça veut dire dans les prochains milliers d'années, en supernovae. Et enfin, un cadavre d'étoiles bien visible au télescope avec la nébuleuse M1, résidu de la formidable explosion qui a été observée dans le ciel le 4 juillet 1054. Fin février, la situation aura évolué avec en début de nuit Pégase déjà bien descendu vers l'ouest pour se coucher, Orion très haut dans le ciel presque plein sud, et les constellations du printemps qui commenceront à se lever à l'est, notamment la figure bien reconnaissable du lion. Côté planète, le choix est très limité, car Saturne se couche très tôt, vers 20h en ce moment, ce qui ne permet guère de l'observer dans de bonnes conditions, tandis que Mars et Mercure sont trop proches du Soleil pour être observés. Mars commencera à se montrer dans les lueurs de l'aube en fin de mois. Le soir, il reste Jupiter, qui peut être observé dans de bonnes conditions, car encore haut dans le ciel vers le sud en début de nuit. Dans un télescope, on peut facilement distinguer ses bandes atmosphériques et repérer ses quatre satellites galiléens, dont la position varie en quelques dizaines de minutes. On les appelle ainsi car ils ont été découverts par Galilée en 1610. Encore un spectacle qui vaut la peine de participer aux soirées d'observation proposées par les Nuits des Étoiles d'Hiver. J'ai d'ailleurs repéré dans les éphémérides que le vendredi 9, ceux qui rejoindront AG33 à Villandreau pourront voir émerger Europe de derrière la planète vers 20h. Et demain, de même le lendemain, samedi 10, à Socat, ou à Martignas-en-Jalles, où il faudra venir un peu en avance au rendez-vous de Jalles Astronomie. Pour être complet avec les planètes, il reste la très brillante Vénus, encore visible le matin jusque dans les lueurs de l'aube, mais de moins en moins haute et de moins en moins longtemps, car elle se rapproche progressivement du Soleil. Et un autre objet du système solaire qui pourra être vu dans les télescopes en tout début de soirée, car il est plutôt bas vers l'ouest et se couche assez tôt, c'est la comète 12P Ponce-Brooks, qui, comme son nom l'indique, est périodique et nous rend visite tous les 71 ans. Depuis la fin d'année, elle devient de plus en plus grosse et lumineuse car elle se rapproche de nous et du Soleil. Et il n'est pas impossible qu'elle devienne visible à l'œil nu, ou au moins dans une paire de jumelles, lors de la deuxième quinzaine de mars. Comme chaque mois, la Lune s'invitera près des planètes en produisant des conjonctions. Le matin du mercredi 7 février, à partir de 7 heures environ, on pourra voir dans les lueurs de l'aube la très brillante Vénus se lever pratiquement en même temps que le fin croissant de Lune. Puis dans la soirée du mercredi 14 février, le gros croissant de Lune se rapproche de la très brillante Jupiter, ainsi que le lendemain, jeudi 15 février, où c'est presque le premier quartier qui sera passé de l'autre côté de la planète. À noter que le jeudi 22 février, Mars et Vénus se frôleront dans le ciel, mais cet événement sera pratiquement inobservable car les deux planètes ne se lèveront qu'une petite heure avant le Soleil. Pour finir, il reste encore 4 jours, jusqu'à dimanche, pour voir l'ISS, la Station Spatiale Internationale, traverser le ciel du soir, car ensuite on ne la verra plus que tôt le matin à partir du 16. Les horaires du soir sont indiqués sur la page Ciel du mois de notre site web www.constellationsetgalaxies.org.
On est toujours en direct, c'est notre journal du mercredi 31 janvier avec Michel Favre pour sa chronique Astro numéro 107. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique, voilà, avec les Nuits des étoiles d'hiver 2024.
Voilà, tout le monde connaît probablement les Nuits des étoiles, manifestation nationale très populaire qui existe depuis 1991 à l'initiative de l'AFA, l'Association française d'astronomie, fédération regroupant la plupart des clubs d'astronomie en France. Elle a toujours lieu au milieu de l'été, généralement début août, ce qui présente l'avantage pour beaucoup de participants d'être en vacances et de pouvoir sans problème veiller tard la nuit, qui commence seulement vers 23h à cette époque de l'année. Et ça la situe dans la période d'activité des Perséides, ce qui est un gage d'observer pas mal d'étoiles filantes zébrer le ciel. Les premières années, elle s'appelait d'ailleurs la nuit des étoiles filantes. La dernière édition était les 11, 12 et 13 août 2023 et nous en avions parlé fin juillet, avec les clubs d'astronomie girondins venus nous détailler les animations qu'ils proposaient. Les prochaines auront lieu les 9, 10 et 11 août 2024. Mais l'AFA trouvait dommage de ne proposer au public d'admirer le ciel qu'en été, car l'automne et l'hiver nous proposent d'autres objets tout aussi intéressants à regarder dans un télescope et bien plus tôt puisque la nuit survient avant 20h. Depuis 4 ans, elle propose donc d'organiser d'autres soirées d'observation dans le cadre des Nuits des étoiles d'hiver, généralement début février. Cette année, ce sera du 9 au 11 février, des soirées sans lune favorables à l'observation des objets du ciel profond comme les nébuleuses et les galaxies. Et nous allons parler des manifestations organisées par les clubs d'astronomie girondins. Mais pour ceux qui voudraient savoir ce qui se passera un peu plus loin, voire dans d'autres régions de France, je les renverrai sur le site en ligne de l'AFA, www.afaastronomie.fr, où la page d'accueil de la rubrique « Nuit des étoiles d'hiver » affiche une carte indiquant les manifestations gratuites qui auront lieu partout en France, carte sur laquelle on peut zoomer et filtrer selon différents critères, comme par exemple le département.
Voilà, merci Michel. C'est pas terminé bien sûr pour la chronique, vous nous donnerez quelques infos, mais voilà, on est ravis de vous recevoir, Corinne. Alors, toujours avant de parler du programme, en quelques mots, c'est important de rappeler AG33 que vous représentez donc en tant que présidente, en quelques mots, et puis on va mettre en avant l'agenda pour les événements à suivre.
Alors, AG33, Astronomie Gironde 33, est une association d'astronomes amateurs qui s'est formée en fait à l'initiative des animations astronomiques. En fait, il fallait avoir un cadre posé avec une assurance pour pouvoir transmettre officiellement notre passion et la science qu'est l'astronomie. En fait, je me suis aperçue, même toute jeune, que l'astronomie restait une science où les gens appréhendaient de venir. « Oh, je suis pas assez intelligent, j'ai pas le matériel. » Alors donc, quand la vie m'en a laissé l'occasion, avec des astropotes, on a décidé de monter un club qui est réservé donc à l'animation et au partage de la science. Bien sûr, tout en nous faisant plaisir, en approfondissant la science de notre côté, entre nous.
Voilà, de la passion qui est partagée.
Toujours.
C'est pour cela, quand il y a des événements, c'est important d'ailleurs de voir ces focus comme la nuit les nuits, parce que voilà, chaque fois je dis au singulier, les nuits des étoiles, bon, l'été dont Michel parlait, les nuits des étoiles d'hiver, c'est important d'avoir ce focus parce que vous pouvez organiser, bien sûr, indépendamment de la femme, et ça permet, sur une période donnée, d'avoir la passion. Comme vous disiez, tout le monde se sent pas à l'aise.
Alors,
c'est pas fait pour moi, j'ai pas, mais vous êtes accueillant dans les clubs astro, donc d'avoir ces focus sur ces nuits.
En fait, nous, toute l'année, on accueille le public sur notre site d'observation. Et oui,
il y a des événements tout le long de l'année, bien sûr.
Mais il est vrai que la plupart des clubs font des observations entre eux, sans forcément inviter le public, pensant que ce public ne viendra pas. Et donc, c'est pour ça que l'AFA a mis en place ces nuits des étoiles d'hiver, pour inciter les clubs à accueillir le public en hiver. Et nous, du coup, on a déjà notre public. Même là, encore, il y a 15 jours, on avait fait une soirée d'observation. Non, il y a 10 jours. Et on a reçu 4 familles. Et donc là, pour les Nuits des Étoiles d'Hiver, s'il y a une bonne couverture médiatique, comme chez vous, que ce soit la radio ou dans les journaux, effectivement, beaucoup plus de monde seront au courant et donc viendront nous voir.
Voilà, donc c'est important, hein, parce que ça vous empêche pas tout au long de l'année, mais d'avoir ces focus-là. Alors vous, qu'est-ce que vous avez préparé donc,
Alors,
je sais que vous êtes très active avec le club et pas que chez vous, j'allais dire.
Alors on a un partenaire maintenant privilégié pour que les Nuits des Étoiles, qu'elles soient d'hiver ou d'été, c'est l'association Adichat de Villandreau. Et donc, systématiquement, on leur bloque des dates pour venir chez eux à Villandreau. Au début, on le faisait au stade de foot, mais maintenant, on a trouvé un cadre beaucoup plus magique, le château de Villandreau. Bien sûr, il est en ruine.
C'est un autre cadre, mais bien, oui, mais
il n'y a plus de toit, et ce qui nous permet d'avoir accès aux étoiles. Et c'est très intéressant. Bon, bien sûr, il n'y aura pas le dispositif qu'on met en place l'été avec des conférences, parce que l'été, la nuit arrivant plus tard, il faut occuper les gens. Donc, l'hiver va commencer beaucoup plus tôt, à 18h30, et jusqu'à à peu près 21h, pour ce qui est de Villandreau.
Rappelez la date, parce qu'il y a plusieurs
c'est
dates
le
sur les nuits.
Vendredi 9 février.
Très bien, parfait.
Voilà, et donc, bien sûr, tout, comme toujours, c'est gratuit, c'est libre d'accès, il suffit de venir. Donc, à partir de 18h30. Pour le lendemain, à Socat, pareil, hein, on va pas faire des conférences, il fait froid, les gens vont pas vouloir s'asseoir sur les cailloux. En plus, le mémorial a eu un petit souci l'été dernier. La foudre lui est tombée dessus et donc il y a une sécurisation qui s'est mise en place pour protéger les pierres. Donc voilà, ça c'est pas possible. Donc, mais on fait une soirée d'observation à thème, donc les Nuits des Étoiles d'Hiver, où on invite, comme à l'habitude, les gens à venir nous voir. Cette fois, ils recevront une carte du ciel qui nous a été donnée par l'Association Française d'Astronomie, l'AFA. Et en plus, eh bien, il y aura de la lecture de ciel, il y aura de l'initiation aux instruments et bien sûr de l'observation. En veux-tu, en voilà, que ce soit aux jumelles, à l'œil nu, au télescope. Il y aura plusieurs télescopes mis en place.
D'autres activités, c'est déjà pas mal, Corinne.
Mais samedi prochain.
Mais je suis tellement habitué à entendre.
Samedi qui arrive.
Alors justement, donc avant.
Samedi qui arrive, on a une soirée au mémorial de la ferme de Richemont. Bon. Donc ceux qui veulent venir, c'est open. Mais attention, même pour les Nuits des Étoiles d'Hiver, si la météo n'y est pas, ce sera annulé. Par contre, on va le signaler sur tous nos supports médiatiques.
Bien sûr.
Le forum, le site internet, Facebook. Hein, on est très actifs sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à ce moment-là. Et même à notre numéro de téléphone que vous trouverez sur le site internet qui est ag33.fr.
Voilà, annulation si vraiment on n'a pas
si
le choix.
Si vraiment la météo n'est pas bonne du tout. Hein.
Voilà, parce que là vous êtes tous des passionnés,
ah, oui.
C'est des bons moments que vous attendez aussi. Donc si vraiment la météo ne s'y met pas, ça, c'est le seul élément qu'on ne maîtrise pas. Très bien Corinne, Michel, mais vous êtes chez vous, donc vous avez d'autres plein d'autres infos. On reviendra vers Corinne parce que il y a d'autres assos, bien sûr, d'autres clubs hein, qui pouvaient pas être présents avec nous en plateau, mais certainement des infos à nous donner, Michel.
Oui, alors je voulais juste préciser une ou deux petites choses par rapport à ce que Corinne a dit. Elle a parlé de lecture du ciel, ce qui est clair pour les astronomes amateurs, mais je précise pour le public, disons novice, qui connaît pas ce concept, c'est le fait de reconnaître un peu les constellations dans le ciel, les principes étoiles ou de repérer Jupiter par exemple au milieu du ciel. Voilà. D'autre part, la météo, c'est sûr que l'astronomie, dès que le ciel est couvert, il n'y a même pas besoin qu'il pleuve ou qu'il neige, dès que le ciel est couvert, il n'y a plus d'observation possible. Donc on ne peut jamais faire d'animation astronomique.
Oui, après on peut s'adapter, mais ça n'aurait pas le même charme.
On peut s'adapter en été.
Voilà,
là,
oui.
Il fait bon. Et donc là, même si c'est couvert, on peut proposer des conférences, des expositions. Là, l'hiver, c'est un peu compliqué.
Alors justement, voilà. la troisième chose que je voulais préciser, c'est ce concept de nuit en hiver. On n'a pas forcément l'habitude de sortir la nuit en hiver. Et il faut savoir que, d'autant plus si le ciel est clair, hein, tout le monde sait que le ciel est clair quand il y a un anticyclone. Et quand le ciel est clair, ben, la chaleur du sol part vers le ciel et la Terre se refroidit très très fort. Et donc, tous les participants qui voudront venir aux Nuits des Étoiles ou même à la soirée d'observation samedi prochain à SOCAT. Il faut savoir qu'en hiver, il faut s'habiller très, très, très chaudement. Hein. Il faut, pour passer la soirée dehors en hiver, il faut s'habiller aussi chaudement que si on voulait aller skier, par exemple. C'est anorak, bottes, gants, bonnet. Le bonnet est très important parce qu'il faut savoir qu'on prend froid aux pieds à cause du manque de bonnet. Hein. C'est bizarre, mais tous les alpinistes le savent. Parce que c'est par le crâne qu'on se refroidit. Voilà.
Bon, mais alors, c'est les bons conseils. J'avais posé la question. C'est vrai qu'on est en hiver, mais c'est bien de le rappeler.
Alors, pendant que j'ai la parole, effectivement, je vais compléter un tout petit peu les informations parce que je suis allé voir sur le site de l'AFA, les manifestations prévues en Gironde. Et il y en a d'autres. Mais les clubs ou les sociétés concernées ne pouvaient pas être présentes avec nous aujourd'hui. Donc, je signale que la SAB, la Société Astronomique de Bordeaux, proposera, alors c'est pas vraiment les Nuits des Étoiles puisque c'est trois jours avant, et ça rentre dans le cycle de conférences qu'ils proposent tout au long de l'année, une conférence sur le thème Titan, lune d'exploration privilégiée pour l'exobiologie. Je rappelle que Titan, c'est le plus gros des satellites de Saturne et d'ailleurs de tout le système solaire. C'est une conférence qui sera donnée par Delphine Nam-Vondo, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom, à 18h30 à l'Hôtel des Sociétés Savantes, place Bardineau à Bordeaux. Comme pour toutes ces conférences, hein, l'entrée sera libre et gratuite et sans réservation. Et d'un autre côté, JAL Astronomie proposera au public aussi d'observer le ciel, mais à Martignas, en Jal.
Oui.
J'ai toujours des problèmes, moi je suis pas de
nous, dans
la
le
région.
Sud-Ouest, on aime bien prononcer toutes les lettres.
En Jal, le samedi 10 à partir de 20h30 sur le site de leur observatoire rue Louis Blanc. Et plus loin de l'agglomération bordelaise, à l'aérodrome de Vendée-Montalvet, avec l'Astronomie Club Médocain. Alors pour les dates et horaires, je pense qu'il faudra vérifier auprès d'eux, car ils ne sont pas précisés sur le site de l'AFA, qui indique juste du 8 au 11 février. Je pense qu'ils sont laissés la liberté de choisir en fonction justement de la météo.
Alors juste pour compléter, sur le site de l'AFA, c'est là qu'on peut trouver ces infos. Hein.
Voilà.
Donc AFA...
AFA Astronomie, Nuit des Étoiles d'hiver, et on tombe sur une carte, et on a toutes les animations proposées en France, et on peut par exemple sélectionner le département Gironde, et on voit tout de suite celle dont on vient de parler.
Voilà, bien sûr.
Avec Corinne, celle que je viens de rajouter, là.
Voilà, on a privilégié, bien sûr, celle... je ne sais pas si vous voulez compléter, Michel, ou conclure, puis on laissera quoi qu'il arrive. Oui, mais allez-y, je vous aurais donné quoi qu'il arrive le mot de la fin, Corinne, mais allez-y, bien sûr.
En fait, on a découvert une petite activité là qu'on a fait dimanche dernier avec le club. C'est, je rebondis en fait sur ce qu'a dit Michel sur la constellation d'Orion, les naissances de systèmes solaires. Je vous invite à aller au Mégarama de Bordeaux, parce qu'ils ont un système, une technologie IMAX, et là, ils proposent des documentaires sur la nature, dont un est sur le télescope spatial Hubble. Alors, bien sûr, il y a une technologie, quoi, ils parlent de la technicité du télescope, mais surtout, ils vous font plonger au cœur des images d'Hubble sur l'astronomie, sur les nébuleuses de naissance d'étoiles. Ils vous montrent les systèmes planétaires en formation, c'est vraiment magique. Et avec ce système IMAX, donc en 3D, franchement, on est dedans et on est complètement immergé. Alors là, je vous invite à emmener vos enfants. N'hésitez pas, ça dure 3 quarts d'heure, c'est pas très, très long. Et là, allez-y, plongez et laissez-vous rêver et allez découvrir vraiment ces nébuleuses, c'est magnifique.
Voilà, puis un lien avec le cinéma, je regardais la reste de la chronique, c'est bien amené. Donc c'est bien d'avoir des infos. Quand... Là, c'est en ce moment, du coup, la projection
Nous, on y était dimanche dernier.
Voilà, parce qu'on sait que certains films, voilà, surtout des fois des documentaires, restent pas longtemps à l'affiche. Non, mais c'est bien, c'est une bonne indication, mais faut pas traîner, je crois que...
Oui, mais je crois que là, ils ont une panel de documentaires en permanence.
D'accord.
Donc après...
Donc même si, entre guillemets, on rate, je raisonne par l'absurde, voilà. Là, il y en aura d'autres.
Exactement.
Non, mais très bien. Mais je vais noter. Merci, Corinne. Bonne indication. D'ailleurs, ça va permettre de rebondir. Hein. Mais là, je ne vais pas spoiler ce que vous allez annoncer.
On anticipe un peu sur un petit aparté sur le cinéma que je voulais faire, en indiquant que notre prochaine chronique, normalement, sera prévue le mercredi 28 février. D'ailleurs, il n'est pas impossible que je parle des aurores boréales, parce que j'envisage d'aller en voir bientôt. Et le 28 février, ce sera le jour de sortie du deuxième volet du film Dune de Denis Villeneuve. Alors je me permets de le signaler car je trouve que le roman Dune de Frank Herbert est l'une des œuvres majeures de la littérature de science-fiction et qu'après son adaptation déplorable en 1984 par David Lynch, hein, ce que le réalisateur reconnaît lui-même, la première partie de la nouvelle version sortie en septembre 2021 était très réussie. malgré quelques libertés prises avec le roman. Et on peut s'attendre aussi à un film épique, à grand spectacle pour cette suite, qui s'est fait attendre longtemps en raison des grèves qui ont touché l'industrie cinématographique américaine l'année dernière. Donc j'étais impatient de le voir et je viens de découvrir que ce serait le 28 février et je m'en réjouis.
Corinne, vous avez vu la première partie de Dune ?
Non, mais j'ai même lu tous les livres.
Bon, alors même avis partagé ?
Ah oui, complètement.
Après, une adaptation au cinéma, ça peut pas être...
Oui, ça peut pas être parfait.
Suivre absolument, parce que parfait, voilà, après, si on est dans un autre...
Cette nouvelle version, effectivement, bon. En tout cas la première partie, se rapproche beaucoup du roman et puis surtout garde l'esprit du roman.
Donc je vous pose pas la question, vous irez voir la deuxième partie.
C'est clair.
Dune, si on peut faire un petit
aperçu. Non, mais on a 3-4 minutes, mais c'est bien.
Dune, mais je crois d'ailleurs qu'il sera en IMAX aussi.
Il faut rappeler que ça a été...
Où ça ? Il n'y a qu'une salle qui propose.
Mégarama de Bordeaux.
Sinon, il y a Disneyland de Paris et autres. Mais c'est bien. Pardon, Michel.
Non, mais donc il faut rappeler que ça a été écrit dans les années 1970 hein, par Frank Herbert. Et c'est un visionnaire parce qu'il aborde des sujets d'écologie, déjà à cette époque-là, puisque Dune, c'est une planète très aride, hein, d'où son nom. D'ailleurs, son vrai nom, c'est Arrakis. Et elle est couverte de sable pour une grande partie, donc un immense désert dans lequel on trouve une matière très précieuse qui s'appelle l'épice. On peut y voir aussi, dans les années 70, un rapport avec la situation au Moyen-Orient, où les grands déserts d'Arabie cachent le pétrole, hein, qui est une ressource très, très riche aussi. Et ça aborde le sujet aussi de la préscience. Hein. Le héros dans l'histoire, on le voit déjà dans le premier volet, devient capable de voir ce qui va se produire dans le futur ou les différents futurs possibles. Et ça pose des questions philosophiques très intéressantes parce qu'à partir du moment où on voit ce qui va se passer, on est pratiquement dans l'impossibilité d'agir parce qu'on voit toutes les conséquences de ce qu'on va faire. Et c'est vraiment très profond. Je veux dire, il y a des œuvres de science-fiction qui sont beaucoup plus superficielles, si on peut dire, mais Dune, avec tous ses aspects, est vraiment une œuvre très, 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 très complète et très intéressante.
C'est bien noté. Puis je pense que le 28 février, vous nous en redirez quelques mots.
Bah, je ne l'aurais pas encore vu, à midi.
Oui, mais bon, ça sera le moyen d'annoncer. Voilà, ça sera la date sortie. Allez, du coup, on va conclure. Donc, Michel, on se voit le 28 février pour la prochaine chronique. Comme d'habitude, cette chronique va retrouver ses petites sœurs, hein, façon de parler sur le métaphore, il y a mieux. Constellations-et-galaxies.org, un tout dernier mot.
Oui, alors en dehors du ciel du mois dont j'ai parlé tout à l'heure, où on trouve des cartes du ciel, effectivement, dans la rubrique astronomie de notre site web, il y a la partie chronique aux deux radios où on retrouve toutes les chroniques, puisqu'à chaque fois, je repars avec un enregistrement de l'émission que je mets en ligne dans les jours qui suivent.
Michel, merci beaucoup. À très vite. Corinne, on va rappeler, hein, pour suivre les infos, vous avez un magnifique site internet également qui est détaillé. Ça permet de suivre notamment les prochains rendez-vous. Alors, je ne veux pas vous porter la poisse si ça doit être annulé pour les questions d'intempéries. Donc, on va rester positif. Donc, oui, pour avoir toutes les bonnes infos, l'actualité de l'association. Donc, rappelez-nous le site internet.
Voilà, c'est ag33.fr, c'est tout simple. Hein. Donc, n'hésitez pas à le visiter. Venez sur nos différents supports, même Facebook. Je pense que Facebook marche beaucoup, très bien.
Oui, j'annonce le site, mais après, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet d'être réactif.
Le site n'étant qu'une vitrine. Après, sur Facebook ou sur notre forum, vous avez le détail en fait, de chacune de nos sorties. Les éphémérides, à quelle heure se couche le soleil, à quelle heure se lève Jupiter ou se couche Jupiter, plutôt en ce moment. Voilà.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Corinne. J'espère que vous avez retrouvé bien votre voix. Ça, ce sont les aléas de l'hiver. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, au travers de vos voix, eh bien, les membres, notamment de votre club, hein, bien sûr. Ouais. Corinne.
Merci, Joël.
Allez, on se retrouvera très bientôt.